Écoutez le monde qui bouge.
On continue d'écouter le monde qui bouge. Voilà. Après ces deux grandes personnalités, le Rav Yaakov Sitruk qui était à nos micros et le Rav Ilan Drei, on va rentrer petit à petit dans ce que l'on appelle dans le jargon journalistique, dans le dur des sujets. Deux invités et tout d'abord on va commencer avec un grand invité et on est très heureux de presque ouvrir l'antenne avec lui, Jean-Lin Onetti, maire d'Antibes. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être autour de nos micros. On se croise de temps en temps, il y a des conférences de presse où il y a des choses qui se passent et puis on a plusieurs de vos équipes qui répondent à nos questions. Mais là, c'est un grand honneur de vous avoir. On a le président Maurice Tidam, président du consistoire de Nice, qui est avec nous aussi. Bonjour, cher Maurice.
Bonjour, très cher Yossi. Bonjour, très chers auditeurs.
On va vous entendre dans un instant, cher Maurice. Alors, j'ai envie de commencer comme ça, 20 ans après le vote de la loi de 2005 sur la fin de vie, qui porte votre nom d'ailleurs, vous avez alerté sur les dangers du projet du gouvernement, qui est un projet scindé en deux textes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler très rapidement, si vous le pouvez, dans quel contexte fut votée cette loi, Jean Leonetti?
À l'époque, il y a une affaire qui est l'affaire Vincent Humbert, est un jeune homme tétraplégique. C'est ce qui demande la mort, sa mère lui donne la mort, puis ensuite il est réanimé, puis ensuite il est euthanasié. Et donc, bien sûr, il y a une émotion dans tout le pays sur le droit à obtenir la mort. Et le président Chirac me confie la tâche d'une mission d'information. Et on aboutit finalement à un texte qui dit trois choses. Qui dit « je t'abandonnerai jamais ». Qui dit « je te laisserai pas souffrir » et qui dit « je te prolongerai pas de manière anormale ». Et ce triptyque-là est un triptyque d'engagement de la société vis-à-vis des mourants, c'est-à-dire des plus vulnérables. Et donc on ne choisit pas de donner la mort, on choisit la non-souffrance et on choisit la vie.
Mmh. Est-ce que vous pouvez nous dire où nous en sommes concrètement en matière aujourd'hui de soins, en matière de développement de soins palliatifs en France?
Les soins palliatifs sont bien développés.
Hein.
Malheureusement, c'est la culture palliative qui a un peu de mal à avancer. On a une médecine qui est très performante et qui quelquefois a des difficultés à fixer ses limites, ses propres limites. Et quelquefois, les traitements apparaissent inutiles, ils apparaissent disproportionnés ou même quelquefois... quel est le sens d'une vie purement biologique maintenue artificiellement. Et donc ces questions-là, elles apparaissent aujourd'hui parce que la médecine est une médecine triomphante et performante. Et donc cette question, elle s'est posée aux médecins, elle se pose à l'ensemble des personnes. Est-ce que je dois fixer raisonnablement les limites à l'action médicale? Est-ce que je dois l'éclairer en me disant tout ce qui est techniquement possible, tout ce qui est scientifiquement possible, n'est pas obligatoirement humainement souhaitable.
Justement, vous êtes médecin. En tant que médecin, qu'est-ce que vous répondriez aux personnes en souffrance, aux familles confrontées à certaines situations extrêmement difficiles?
Alors d'abord, je pense qu'il faut continuer à développer les soins palliatifs, parce qu'il y a encore 20 départements en France qui ne sont pas dotés d'unités de soins palliatifs. Et moi, mon expérience aujourd'hui avec l'unité de soins palliatifs qu'il y a sur Antibes Jean Lépin, c'est qu'il y a des hommes et des femmes totalement désespérés, en pleine souffrance. Et la souffrance, elle détruit le cœur, elle détruit la raison, elle détruit l'âme. Elle vous empêche de raisonner. Et elle vous dit la mort plutôt que la souffrance. Elle vous dit la mort plutôt que de subir ce que je vis au quotidien. Et je constate que quand ils rentrent en unité de soins palliatifs, il y a une telle prise en charge globale, une telle bienveillance, une telle technicité aussi scientifique en utilisant des médicaments utiles, c'est que cette demande de mort disparaît. Elle disparaît parce que on redonne pas bien sûr du temps à la vie, mais on donne de la vie au temps. Et on donne la capacité de dire ce moment qui peut être le dernier, ces moments qui sont probablement la fin, eh bien, je continue à les partager avec des messages que je passe à mes enfants, à mes amis, avec aussi encore je le vois dans l'unité de soins palliatifs d'Antibes Jean Lépin, aussi la capacité d'avoir des moments de joie et même des moments de bonheur. Donc c'est au fond un message d'espérance. Non, je t'abandonnerai pas, mais je te laisserai pas souffrir.
Ce message d'espérance, vous l'avez partagé avec le Grand Rabbin de France. Vous avez la vision du médecin et vous étiez tout à l'heure dans le grand amphithéâtre avec Chaim Korsia, qui est le Grand Rabbin de France. Donc on a le médecin et l'autorité spirituelle qui se sont retrouvés face à face.
Ça fait longtemps que Chaim Korsia participe aux travaux de réflexion sur la fin de la vie. Qui ne veut pas dire grand-chose d'ailleurs, puisque comme on le disait tout à l'heure, la fin de la vie, elle peut commencer au début de la vie, et personne ne sait ni le moment ni l'heure. En revanche, j'ai toujours été, entre guillemets, alimenté par la réflexion de Chaim Korsia. Chaim Korsia, je l'ai connu avant qu'il soit grand rabbin de France, je l'ai connu au comité d'éthique, et j'ai toujours trouvé que sa parole était à la fois, bien sûr, une parole inspirée, par la foi, mais aussi une parole universelle et humaine. Et c'est là où on se rejoint. Bien sûr qu'on n'a pas fait des lois qui sont des lois divines, on a fait des lois humaines à partir de l'imperfection de l'humain. Mais l'important, c'est d'avoir cette réflexion, cette modestie de l'homme vis-à-vis de sa destinée, qui accepte le tragique de la vie, qui est le fait qu'il sait qu'il va mourir, mais qu'il accepte aussi avec sa part d'espérance et de transmission. Et donc, effectivement, moi j'ai beaucoup, je l'ai dit tout à l'heure un peu trivialement, j'ai beaucoup volé des idées à Chaim Korsia, parce que à partir d'histoire, à partir de vécu, à partir de sa réflexion propre, à partir bien sûr des textes sacrés, il a été capable de passer des messages. J'ai raconté à la tribune de l'Assemblée nationale cette histoire de ce rabbin très saint qui va mourir et où les hommes prient pour qu'il reste et où les anges prient pour que son âme soit libérée. Et ça incarne bien, ça illustre bien l'idée que nous avons face à la mort d'un être cher, où nous sommes partagés entre des désirs de mort et des désirs de vie. Et quand ça nous concerne, on est aussi partagé entre des désirs de mort et des désirs de vie. Et il faut que la vie gagne sur la mort.
Juste une dernière chose. Je n'ai pas voulu vous interrompre parce que c'est passionnant ce que vous dites. Et je vous en remercie. À celles et ceux qui nous écoutent en direct ou qui nous écouteront en podcast, puisque toutes ces interventions vont être aussi mises en podcast d'ici à demain matin. Et particulièrement aux jeunes, parce que je sais que c'est un sujet qui vous touche particulièrement, les jeunes et l'avenir de demain, d'ailleurs, qui est aussi une de ces thématiques d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ?
Aux jeunes, j'ai envie de leur dire qu'ils sont comme tous les jeunes de France, qu'ils ont et ils peuvent influencer leur avenir. Voilà, ils ont leur destinée dans leurs mains. Peut-être ils vont avoir de temps en temps l'impression que l'avenir est bouché, que l'avenir n'est pas décidé par eux. Eh bien, il faut qu'ils s'en prennent. Qui s'imprègne de cette responsabilité qui est la leur, la responsabilité individuelle de dire je suis à la fois responsable de moi-même, de ce que je vais devenir, de ce que je vais faire, et je suis responsable des autres. L'un, c'est la liberté, je suis responsable de moi-même. L'autre, c'est la solidarité, la fraternité, je suis responsable des autres. Et c'est, au fond, le ferment de l'idéal français.
Merci beaucoup, monsieur
c'est
le maire.
C'est moi qui vous remercie.
Merci d'être là, merci. Au nom de toutes celles et ceux qui viennent et celles et ceux qui ne peuvent pas parce que les kilomètres les séparent de ce grand palais des congrès, d'avoir donné autant de force à cette organisation pour que ce deuxième Yom HaTorah se passe ici dans votre ville.
Et on est très fiers d'accueillir Yom HaTorah et on vous attend dans 2 ans.
Absolument. Rendez-vous est pris. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup.
כל חוזר אלינו, כל מה שנשבר סביב